Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite d'abord une très belle année 2024 et meilleurs vœux également à nos invités du soir. En apercevant ce tour de table, vous avez compris que nous allons parler politique pour cette première émission de l'année, au lendemain de la traditionnelle adresse à la nation du président de la République. En 13 minutes, Emmanuel Macron a voulu donner un cap, histoire de répondre à celles et ceux qui l'accusent d'avoir égaré sa boussole. Et puis il y a eu ce mot, utilisé à 7 reprises, « réarmement ». De l'État, des services publics, civiques, face au dérèglement du monde. Pourquoi ce mot clé? À quoi pourrait ressembler cette année 2024 entre les menaces extérieures, les fractures politiques à l'intérieur de notre pays et la perspective des européennes? Commencera-t-elle par un remaniement dans les jours qui viennent? On le dit imminent, nous allons bien sûr en parler avec nos invités dans quelques minutes. Macron, opération réarmement, c'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS sur Internet et sur les réseaux sociaux. Avec nous ce soir, Yves Tréhard. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste, merci. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Figaro. Nathalie Mauré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional EBRA. Je cite votre article disponible sur les sites des différents journaux du groupe. Le quinquennat va-t-il enfin, entre parenthèses, démarrer l'an prochain? Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je cite votre dernier livre, La fracture, publié aux Arènes. Et enfin, Pierre Aski, bonsoir. Pierre, vous êtes chroniqueur international pour France Inter et l'Obs. Je cite votre chronique ce matin à retrouver sur le site de Radio France. Quand les civils sont les premières victimes des guerres, c'est une terrible régression. Merci à tous les quatre de participer à C'est dans l'air en direct. Yves Tréhard, j'évoquais à l'instant les vœux d'Emmanuel Macron hier soir, un exercice classique, mais qui est toujours scruté de près sur la forme et le fond. Qu'en avez-vous pensé?
Il a voulu réarmer sa politique, oui, à mon avis. Non, c'est-à-dire que vous avez fait une introduction en disant qu'on lui reprochait de ne pas avoir de boussole. Et je pense qu'effectivement, il a cherché hier à montrer qu'il y avait un cap et à redonner de l'optimisme au pays qui est sorti essoré, de mon point de vue, de l'année 2023. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu deux réformes qui ont beaucoup bousculé le pays, les retraites et l'immigration, des réformes qui ont eu beaucoup de mal, et c'est peu de le dire, à passer. Une très impopulaire, les retraites, l'autre, l'immigration, qui a fracturé le pays. Et ce sont deux épisodes qui montrent que la France est difficile à gouverner, somme toute. À côté de ça, il y a quand même eu, et il l'a rappelé, parce qu'on a tendance à l'oublier, une vingtaine de réformes qui sont passées, des réformes importantes hein, sur le nucléaire et sur d'autres sujets. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on s'est aperçu à la faveur de ces réformes et de cette année politique que le « en même temps » avait peut-être des limites. Et que le « en même temps » empêchait une politique claire d'être conduite clairement, avec des objectifs précis. Et c'est probablement de ça dont a souffert la réforme d'ailleurs de l'immigration. La réforme de l'immigration était un côté social et un côté plus répressif. Je rappelle aussi que les retraites, la réforme des retraites qui a été votée n'est pas du tout la réforme qu'il avait présentée
au départ,
à l'origine, c'est-à-dire il y a quelques années. Donc le message a du mal à passer. En plus, il y a une détestation du président de la République, Frédéric pourra en parler dans les sondages, qui est quand même assez violente. C'est il conservait un électorat qui est à peu près stable, mais il y a quand même une virulence, une violence anti-Macron qui est assez inquiétante.
Détestation. Vous utiliserez ce terme?
Je ne dirais pas tout à fait ce terme. C'est vrai que c'est intéressant de voir, et Yves l'a bien dit, il a son socle. Son socle présidentiel ne bouge pas. Il a toujours 80% de soutien dans les enquêtes IFOP JDD ou IFOP Fiducial pour Paris Match. Mais c'est vrai que sur l'homme en tant que tel, ça a culminé à plusieurs moments, une forme de détestation, les gilets jaunes. Cette réforme des retraites hein, qui a été rejetée par deux tiers des Français, trois quarts des personnes actives. Et surtout, la détestation, elle a eu plusieurs visages. Elle a eu l'arrogance, le mépris, les fameuses petites phrases. Mais surtout, ce qui me frappe, et c'est une critique qu'on peut faire sur ses vœux, c'est une certaine déconnexion. Les Français disent « vous ne connaissez pas vraiment votre pays ». On le voit dans les vœux où, si je compare à... ce n'est qu'une enquête, mais une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les grands événements de l'année... Crépol sort de manière très haute, il n'a pas évoqué. L'assassinat de Dominique Bernard, il a parlé bien sûr du terrorisme, mais il ne l'a pas évoqué vraiment. Donc c'est cette dimension-là.
Il est passé à côté des sujets qui préoccupent les Français.
Pas complètement. Quand il parle de réarmement, il parle tout de suite de santé et l'hôpital, l'école et l'éducation. Et le déclin français se cristallise sur ces deux dimensions, sur ces deux institutions malades pour les Français, l'hôpital et l'école. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu, de ce point de vue-là, quelque chose de très clair. D'abord, des vœux qui ont été plus courts que les précédents, et c'est un président qui ne sait pas faire court. Et il a très clairement mis en branle deux grandes dimensions, un discours anti-inaction, lorsqu'il a dit « pas d'impuissance, l'action n'est pas une promesse,
c'est une option,
c'est une véritable obligation ». Et également, avec le millésime 2024, la fierté d'être français, un puissant discours anti-déclin. Est-ce que ça suffira? On sait très bien que des vœux ne changent rien à une situation d'impopularité. Mais détestation, je ne dirais pas ça, mais une relation toujours dégradée entre une partie des Français et lui.
Et alors, je crois que, alors c'est la suite du propos que je voulais tenir, c'est que il a, à mon avis, cherché à montrer que la France était encore une puissance et qu'elle avait un rayonnement international à travers les Jeux Olympiques qu'elle va accueillir, à travers la réouverture de Notre-Dame, qui est quand même un monument dont l'incendie a ému une grande partie de la planète, à travers la francophonie, puisqu'il va y avoir un sommet, et à travers le débarquement, les 80 ans du débarquement. Pourquoi je dis ça? Parce que, et Pierre pourra en parler, mais je pense que la politique étrangère du président de la République, qui est pourtant une passion chez lui, l'année 2023 est
et notamment en Afrique.
Terrible.
Mais effectivement,
on
y reviendra plus longuement. D'abord, juste pour revenir sur ce mot-clé de réarmement, Nathalie Moret, ce sera un peu notre fil rouge tout au long de l'émission. Il a aussi parlé, Emmanuel Macron, de la peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle, qui sont bien là. On a senti un ton grave. Il est dans quel état d'esprit en ce moment?
Déjà, juste pour revenir sur le terme réarmement, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu hier et c'était fait pour, puisque vous l'avez dit, il l'a répété à 7 reprises, mais ce n'est pas un terme qui est nouveau dans sa bouche. Il l'a souvent utilisé dans des interviews en presse écrite. Moi, la dernière interview qu'il nous a donnée il y a à peu près 6 mois, juste après la sortie de la réforme des retraites, c'était un terme qui revenait déjà plusieurs fois dans cette interview. C'est-à-dire qu'effectivement, pour lui, le réarmement civique, il l'a dit, le réarmement industriel, etc., c'est vraiment quelque chose qui est le moteur de sa politique, le fil rouge, pour reprendre votre terme, mais il ne l'avait pas expliqué de façon aussi nette depuis hier soir. Moi, ce qui m'a vraiment marqué hier soir, c'est que j'ai l'impression que c'était des vœux de mise au point. Ce réarmement, c'est dans tous les thèmes que vous avez cités. Deux, je remercie ma première ministre tout en étant très ouvert sur ce terme. Est-ce que ça veut dire « je remercie » au sens premier, vous avez fait le travail, ou « je vous remercie » parce que bientôt, vous n'allez pas être là. Donc, quelque part, cette ambiguïté, c'est aussi quelque chose qui est calculé. Trois, l'écologie. Il a parlé à plusieurs fois d'écologie, ce qu'il avait totalement omis de faire la dernière fois lors de ses vœux. Rappelez-vous, il avait dit « personne ne pouvait prévoir le dérèglement climatique » et il s'en était pris un petit peu plein la figure. Et quatrième chose qui est, à mon avis, enfin, à mon sens très important, c'est qu'il a lancé hier soir la campagne des européennes. Clairement, en installant le débat avec le Rassemblement national, d'abord, meso voce, j'allais dire, en disant les petits calculs politiques, etc., ça visait clairement en partie le Rassemblement national. Et puis, quand il dit, il faudra savoir si l'Europe, vous allez pouvoir en parler sans doute, c'est stop ou encore, c'est quelle Europe on veut, etc., c'était une façon d'installer le duel qui sera, à mon avis, un des enjeux majeurs de 2024. Donc, dans quel état d'esprit est-il? C'était votre question. Combatif, dans l'action et déterminé à faire de 2024 une année utile, j'imagine.
On dit qu'il a changé autour de lui, son entourage,
directeur
de cabinet,
c'est vrai,
pas mal
de conseillers. Il y a beaucoup de conseillers de l'Élysée qui sont partis.
Il cherche un second souffle ou un nouveau souffle?
C'est que le souffle de ce deuxième quinquennat n'est jamais arrivé.
C'est ça.
Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas fait campagne quasiment. Il a battu Marine Le Pen, beaucoup moins facilement que la première fois.
Les Français parlent d'un mandat de 10 ans.
10 ans, oui. Et il n'a pas il n'avait pas de programme. La seule réforme qu'il avait en tête, c'était les retraites, il l'avait dite. Mais la réforme de l'immigration, par exemple, il ne l'avait pas du tout énoncée. Et il est arrivé en faisant tellement peu campagne que les Français ne lui ont pas donné de majorité absolue, lui ont donné une majorité relative. Et on a l'impression, effectivement, qu'on est à mi-mandat, là. C'est-à-dire qu'on est, après 7 ans de gouvernance Macron, on a l'impression que ça il cherche un nouveau souffle parce que il y a aussi l'usure du pouvoir. Hein.
Mais sans dire comment. Il ne dit pas comment il a trouvé ce lieu
précis. Il le dit, rendez-vous au mois de janvier. Lorsqu'il parle de détermination, de résultats, d'efficacité, je vous dirai au mois de janvier les moyens de parvenir.
On va le développer dans quelques minutes d'abord. On n'en a pas parlé, mais simplement sur la forme, le cadre dans lequel le chef de l'État a parlé hier, dans les jardins, avec ces drapeaux derrière lui qui représentent les nations olympiques et dans lequel le drapeau français ne ressort pas spécialement. Quel est le message envoyé? Il a commencé aussi par la politique internationale.
Oui, mais moi, je suis resté sur ma faim sur la politique internationale parce que, franchement, il a tracé le décor. Il y a une guerre en Ukraine, il y a une guerre au Proche-Orient. Moi, je pensais, franchement, j'écoutais ce discours en attendant, pas un exposé de politique étrangère, mais au moins quelques indications sur la position de la France, sur le rôle que la France peut jouer. On est dans une année absolument décisive sur ces deux conflits, l'Ukraine et ce qui se passe en ce moment à Gaza. Pas un mot. Il en a parlé dans le contexte de la campagne, effectivement, pour les européennes, en disant est-ce que on va décider, en gros, est-ce qu'on continue à soutenir l'Ukraine ou est-ce qu'on abandonne. Mais par rapport à la position de la France dans ces deux conflits, il n'a pas dit un mot. J'étais très, très étonné, parce que ce sont des conflits qui ont une résonance très particulière dans le débat politique français. On l'a vu avec la lame de fond que le conflit du Proche-Orient a provoqué, la secousse que ça a provoqué dans la société française. Il n'a pas du tout évoqué cet aspect-là. J'ai trouvé ça étrange parce que, effectivement, cette internationalisation, elle est présente par les drapeaux, par l'évocation des Jeux Olympiques, enfin tout ce qu'a décrit tout à l'heure, les Jeux Olympiques, la francophonie,
le débarquement
si on veut. Enfin, là, on est dans la commémoration. Oui. Mais pas du tout par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que il y a une sorte de retrait après avoir pris des coups en 2023, il faut bien le dire. Et effectivement, sur ces deux sujets, c'est très surprenant de voir comment la France, par exemple, n'est pas plus active dans le conflit du Moyen-Orient, parce que c'est un sujet sur lequel, traditionnellement, on a une position originale par rapport à nos partenaires européens, et on a un rôle à jouer qui est aujourd'hui totalement ignoré. Et la deuxième chose, c'est aussi, je pense, par rapport à l'Afrique. Il a parlé de la francophonie, mais 2023, c'est l'année où la France s'est retirée d'un certain nombre de pays. Le dernier, c'est le Niger. On a fermé l'ambassade de France au Niger. Sujet totalement absent de cette présentation de la toile de fond du décor, disons.
C'est ça. Et on y reviendra plus en détail tout à l'heure. D'abord, au cours de son discours hier soir, Emmanuel Macron a vanté les réformes de l'année écoulée, passant brièvement sur la loi immigration adoptée dans la douleur, une loi qui, on le disait, a fracturé la majorité, divisé le gouvernement. À quelques mois d'élections européennes annoncées comme périlleuses, l'exécutif cherche un nouvel élan et donc à se réarmer. Reste à savoir avec quelle munition. Théo Manval avec Julien Bernard.
Françaises, Français de métropole, de nos outre-mer et de l'étranger.
Un président debout devant les drapeaux des Nations Olympiques sur la terrasse de l'Élysée. Le message scénographique est clair, volontarisme affiché.
Soigne 2024, année de la détermination, de l'efficacité des résultats.
Est-ce à dire qu'il en a manqué en 2023? Le président a en tout cas voulu tourner au plus vite la page d'une année marquée par la contestation contre sa réforme des retraites, les émeutes du printemps ou encore les déboires du projet de loi immigration. Pour se projeter, un mot-clé répété à 7 reprises.
Ce réarmement économique, ce réarmement de notre souveraineté européenne, réarmement industriel, technologique, scientifique.
Réarmement également invoqué par le chef de l'État sur le volet civique.
La France, c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge.
En 13 minutes, une seule phrase sur l'inflation qui, dit-il, rend tout plus difficile. Le président préfère renvoyer vers des événements heureux, les Jeux Olympiques de l'été prochain à Paris ou la réouverture de la cathédrale Notre-Dame qui a retrouvé sa flèche ces dernières semaines. Mais dans l'opposition, à peine l'allocution terminée, les réactions se font critiques.
vœu délibérément trompeur du président de la République. Après avoir pris du retard à peu près sur tout depuis 2017, il fallait oser dire que l'on aurait 10 ans d'avance en 2027.
Le président de la République a utilisé souvent le mot de réarmement, alors que l'année 2023, sous sa conduite, a été une année de désarmement républicain, de désarmement même civique. Les inégalités se creusent.
Il annonce par exemple la sortie du charbon en 2027 alors qu'il l'avait déjà fait lors de son premier quinquennat. Il avait dit qu'à la fin de son premier quinquennat, on sortirait du charbon, ce qui n'a pas été réalisé.
Au Rassemblement national, la critique se double d'un rendez-vous donné aux électeurs par Marine Le Pen.
Emmanuel Macron se noie dans ses mensonges, inventant un pays sans crise du pouvoir d'achat ou sans violence. Il ne voit et n'entend rien des difficultés des Français. Conclusion, il ne fera rien. Vivement le 9 juin.
Le 9 juin, date des élections européennes. Le chef de l'État sait qu'elles auront tout du scrutin de mi-mandat, pour ou contre lui. Alors il a lui aussi lancé sa campagne hier soir.
Je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent, au service du pays, et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels.
Une pique à l'extrême gauche, à la droite, et au RN qui caracole en tête des enquêtes d'opinion avec près de 10 points d'avance sur la liste Renaissance, 27% contre 19% à 6 mois du scrutin. Alors la question se pose à nouveau d'impossibles remaniements. Hier, le chef de l'État a rendu un hommage appuyé comme rarement à Elisabeth Borne.
Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement.
Marque de confiance ou cadeau de départ, le prochain Conseil des ministres prévu dans 2 jours à l'Élysée a en tout cas été annulé. De quoi alimenter les premières spéculations politiques de cette nouvelle année.
Et ces remerciements d'Emmanuel Macron à Elisabeth Borne vous mobilisent et vous interrogent. On a un téléspectateur qui nous dit « Ces remerciements à la Première ministre ne signifient-ils pas qu'elle sera prochainement remplacée ?»
On peut l'imaginer, on peut l'imaginer. D'abord, objectivement, la Première ministre est pas mal usée par cette première partie de quinquennat. Et s'il veut trouver un nouveau souffle, même si ça sera que très temporaire, parce que c'est jamais un remaniement qui a relancé une politique, rarement en tous les cas, il faut qu'il le change. Alors après, il y a plusieurs inconnus. D'abord, il y a un ministre au gouvernement qui s'appelle Monsieur Dussopt, et qui aujourd'hui est à une affaire judiciaire contre lui, et le jugement sera rendu le 16, si ma mémoire est bonne, le 16 janvier. 16 janvier. Donc d'ici au 16 janvier, est-ce qu'il va remanier le gouvernement, changer de Premier ministre ou de Premier ministre, alors que le 16, il est suspendu à une décision qui pourrait faire que le ministre du Travail soit obligé de sortir, parce que quand il y a condamnation, généralement, vous quittez le gouvernement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand vous discutez avec son entourage immédiat, ils vous disent qu'il n'a pas intérêt à changer avant les européennes. Mais ça, il y a deux philosophies. Il y a une philosophie qui vous dit qu'il a intérêt à changer justement pour essayer de donner un nouveau souffle, un nouvel élan. Et puis d'autres qui disent mais non, il faut qu'il l'use jusqu'au bout, il faut qu'il la crame, comme on dit vulgairement, jusqu'au bout. Donc, voilà. Et puis, il n'a pas avec qui.
C'est ça.
C'est ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est qu'on est dans un pouvoir présidentiel hyper fort en France, semi-présidentiel, mais qui est en fait très, très fort, à un homme auquel on demande tout. Et d'ailleurs, l'épisode d'hier est le symbole de ça. Dans beaucoup d'autres pays étrangers de très grande puissance, vous n'avez pas les vœux du président ou du Premier ministre. C'est en France où on demande tout à cet homme. Regardez le titre de l'émission. Est-ce qu'il peut réarmer à lui tout seul? Est-ce que Macron va réarmer la France? Quand même, on attend beaucoup de cet homme-là. Est-ce qu'il il est quand même très seul, avec qui il peut gouverner maintenant? Si vous prenez à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de candidats. Si vous prenez dans son gouvernement, il y a un homme qui pourrait faire l'affaire qui s'appelle Bruno Le Maire. Parce que M. Darmanin a quand même essuyé beaucoup on va pas dire d'échec, parce que sa loi est passée, mais ça a quand même été très difficile pour lui. Et puis, les autres sont quasiment inconnus, et M. Attal est encore un peu tendre, probablement. Donc, il y a aussi le problème de la troupe et du renouvellement des têtes. Hein. C'est pas évident. Pas évident.
Oui, donc dans ce contexte, c'est vrai qu'un remaniement ne va pas changer grand-chose. Hein. Les Français sont sur une logique, pour reprendre les mots du président, de résultats, d'efficacité et de cap. Il est revenu sur le cap lorsqu'il dit libérer, protéger, unir. Bah, c'est le cap du premier quinquennat. Mais il est vrai que les élections européennes vont avoir un rôle fondamental. Sauf dissolution d'ici 2027, personne ne peut savoir ce qui va se passer, ça sera le seul scrutin qui aura une dimension nationale où les partis pourront se compter avant la présidentielle de 2027, où bien sûr Emmanuel Macron ne pourra pas participer. Et il importe d'éviter deux choses. Un, le vote sanction, qui avait touché par exemple le PS en 2014 avec moins de 14%, ou la droite en 2004. Et deux, une avance irrésistible du RN. J'ai vu le sondage de mes confrères et amis d'Opinionway, 27-19. Une enquête IFOP fiduciale donnée 30-18. Et surtout un bloc RN, Manon Maréchal Reconquête, Nicolas Dupont-Aignan à 40%, ce qui était complètement inédit. Et c'est vrai qu'une élection européenne a rarement un effet sur le cycle électoral, mais avec un scrutin unique, ça met Marine Le Pen, dans la perspective 2027, dans des conditions idéales qu'elle n'a pas connues en 2017, qu'elle n'a pas connues en 2022, parce qu'il y avait eu, juste avant, un an ou deux ans avant, des élections régionales, mauvaise pour le RN pour des raisons diverses, mais qui avait entravé la dynamique du RN. Donc dans ce cadre-là, la petite musique du remaniement et d'un remaniement profond peut jouer, d'autant plus que Mme Borne est usée de deux manières. D'abord, les 49-3. C'est Mme 49-3, elle a commencé à chuter dans les enquêtes de popularité avant la réforme des retraites. Et puis, c'est assez sévère de le dire, mais c'est ce que nous voyons dans nos enquêtes IFOP, c'est qu'il y a très peu d'éléments de bilan associés à sa popularité. C'est uniquement l'incarnation, c'est uniquement son image, une femme sérieuse, experte, intelligente, qui sait dialoguer, qui sait bien animer l'équipe gouvernementale. C'est relativement faible, plus d'un an et demi après sa nomination.
Nathalie Mouret, il va avoir lieu, on le dit imminent, ce remaniement, pourrait vraiment intervenir là dans les prochains jours?
Évidemment, j'en sais rien, mais il y a plusieurs raisons qui pourraient accréditer le fait que c'est imminent. Un, ça a été dit dans votre reportage, le Conseil des ministres de cette semaine est repoussé.
Oui.
Deux, l'emploi du terme réarmement. Si on réarme, ça veut dire qu'on a besoin de munitions. Or, c'est difficile de réarmer avec les mêmes munitions. Et ensuite, il y a effectivement l'histoire des européennes, et effectivement que je n'oublie pas. Mais il y a quand même deux choses. Il remercie la Première ministre, mais il ne dit pas ce qu'il va faire dans les prochains mois et qui est déjà connu. Dans les prochains mois, ce qui est déjà connu, c'est qu'il va y avoir une loi sur le grand âge, une loi sur le droit à mourir dans la dignité et l'introduction de l'IVG dans la Constitution. Il aurait pu dire, je remercie la Première ministre et son gouvernement, ils auront donc à mener telle et telle chose. Ce qu'il n'a pas fait, ce qui accrédite le fait que peut-être, effectivement, le gouvernement pourrait changer, mais soyons clairs, en tous les cas, moi, j'ai aucune confidence de ce point de vue-là, et personne ne dit rien, comme à chaque fois qu'il y a un remaniement.
Est-ce qu'on sait malgré tout qui est menacé au sein de ce gouvernement ?
Oui, il y a des... Vous savez, le problème aussi, et on en revient, c'est qu'ils sont tous inconnus, quoi. À part quelques-uns, le ministre de la Justice, qui a les faveurs, et qui garde les faveurs du président de la République, qui aurait dû à plusieurs reprises sortir du gouvernement, mais qui a même été promu dans l'ordre hiérarchique du gouvernement, qui en plus a sauvé sa peau face, l'expression est un peu rude, mais il est quand même, il sort d'un procès qui aurait pu être très cher pour lui. Donc, il y a, à part lui, Darmanin, Le Maire et Attal, les autres sont c'est très cruel de dire ça, mais sont des illustres inconnus.
C'est ce que disent les sondages aussi, c'est les Français dans les sondages.
Alors oui, on le voit, vous avez rappelé Yves, les ministres les plus connus. Quand même, n'oublions pas que le remaniement de fin juillet a eu pour but de sortir des ministres qui incarnaient peu. En politique, il y a l'action, il y a également l'incarnation. Exit, Jean-Christophe Combes, Pap Ndiaye, le ministre du logement Olivier Klein et le ministre de la Santé, François Braun. Donc là, on serait sur une même logique de remaniement. Et c'est vrai que ce gouvernement, quand même, incarne plus, je trouve, parce qu'il y a maintenant des vrais poids lourds. le phénomène Gabriel Attal, qui est vraiment, avec Jordan Bardella, dans l'opposition, la personnalité qui a gagné le plus de points en crédibilité, en confiance et en visibilité. Il y a un Bruno Le Maire qui est Premier ministre de Bercy depuis 2017, extrêmement solide. Darmanin, Éric Dupond-Moretti, c'est plus compliqué pour les autres. Est-ce qu'on change le gouvernement seulement pour des questions de notoriété? Je pense que ce n'est pas une fin, c'est plutôt un moyen. S'il change, peut-être qu'il irait beaucoup plus loin pour ne pas faire du remaniement à venir, personne n'en sait rien, une sorte de bis par rapport à ce qui a été fait fin juillet.
Et puis on le disait, la loi immigration a créé des fractures au sein du gouvernement, au sein de la majorité, se pose la question de avec qui et qui on fait entrer dans ce gouvernement, c'est ce qu'on disait aussi.
Il ne faut pas mésestimer l'immense fracture qu'il y a chez les macronistes du départ. Emmanuel Macron, et je pense que c'est l'une de ses difficultés, a été élu sur un public de centre-gauche, ce n'est pas Frédéric qui va me dire le contraire, et beaucoup de députés qui sont là depuis 2017 sont... on va dire d'anciens socialistes. Ces gens-là, qui sont encore dans le groupe Renaissance, ont été extrêmement contrariés par la loi immigration. Je vous rappelle qu'il y a 59 députés de la majorité qui n'ont pas voté la loi immigration, et il y en a qui l'ont voté, et qui l'ont voté vraiment à reculons. Donc en fait, ce chiffre de 59 est à prendre vraiment hypothèse basse. En fait, il y en a vraiment beaucoup plus qui sont très mal à l'aise avec cette loi. Donc il va falloir gouverner avec eux. Donc s'il doit y avoir un changement de Premier ministre, il va falloir qu'il y ait aussi un changement dans la majorité. Pourquoi pas la création d'un groupe bis, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se penser et de se faire dans cette majorité. C'est une des grandes difficultés d'Emmanuel Macron, parce que quoi qu'il veuille faire, il a toujours une majorité relative à l'Assemblée. Donc ça va être difficile pour lui de faire voter des textes.
Tiens, Raskin.
L'une des difficultés du calendrier, c'est que si les élections européennes se passent mal, ce que le sondage qu'on a vu tout à l'heure indique, il y a une grande crainte dans la majorité, c'est que les électeurs de gauche qui s'étaient ralliés à Emmanuel Macron le quittent au moment des européennes, aillent vers un pôle Glucksmann de gauche pro-européenne rassurant, détaché de Mélenchon, et donc affaiblissent encore plus la position d'Emmanuel Macron dans la foulée de ce qui s'est passé au moment de la loi sur l'immigration. Et donc, réformer le gouvernement maintenant, c'est s'interdire de pouvoir le faire après les européennes, lorsqu'il y aura un moment où on sera dans le choc d'une vraie défaite. Donc c'est cette contradiction-là, elle est forte.
Avant d'évoquer les européennes, justement, cette question d'Alain de Seine-Saint-Denis, après les retraites et l'immigration, Emmanuel Macron envisage-t-il d'autres réformes aussi clivantes?
Alors, il y a
le projet de loi sur la fin de vie.
Oui, il y a le projet de loi sur la fin de vie. Mais alors ça, c'est des réformes clivantes qui clivent à l'intérieur même des formations politiques, si vous voulez. Et c'est ça qu'il faut aussi répéter. Et c'est pour ça que les élections européennes vont être très intéressantes. Et là, le constat de Macron, il est juste. Aujourd'hui, l'opposition, elle n'est plus entre droite et gauche, même si on l'a cru que cette opposition était revenue à la faveur de l'immigration. C'est pas vrai. Il est entre les gens qui sont souverainistes, nationalistes, sans aucun mépris de ma part en employant ce mot-là, qui sont pour un repli, qu'il a caricaturé hier, justement, en disant que c'était les populistes là qui gagnaient ici ou là dans le monde, et puis lui qui entend symboliser les progressistes, une Europe qui s'accomplit, une Europe qui se fait. Il va nous sortir, comme l'a dit Nathalie très bien, des réformes dites de société qui, à mon avis, vont un peu noyer le poisson de ce point de vue. Sur lesquels d'ailleurs il n'a pas d'idée très précise. C'est le cas sur la fin de vie. La fin de vie,
beaucoup le voyez.
Le texte a beaucoup changé. Maintenant, on est arrivé à l'emploi du mot euthanasie, peut-être. Hein. L'exception d'euthanasie va être peut-être figurée dans le texte. Donc il va y avoir ça, il va y avoir l'IVG. Et sincèrement, l'IVG, mais les Français doivent se dire, mais attendez, à l'heure où il n'y a pas de pouvoir d'achat, à l'heure où le ciel s'obscurcit économiquement, inscrire l'IVG dans la Constitution, est-ce bien utile?
Bah, quand il est remis en cause ailleurs et dans d'autres pays,
oui, mais est-ce qu'il l'est en France? Personne ne le demande. Enfin, vous voyez, c'est des questions comme ça qui peuvent se poser. Et donc, ça va être particulier, à mon avis, cette année.
Alors, cette remarque d'Yves est souvent exprimée par les Français de voir des réformes de société comme des dérivatives. J'avais été marqué et même amusé en 2013 au moment des grands débats sur la loi Taubira et de l'autre la manif pour tous, que des pros comme des anti-loi Taubira tenaient le même discours. Passons à autre chose, ce n'est pas le vrai sujet. Mais si on regarde cette année 2023, c'est frappant de voir que sur les retraites, il y avait une sorte de convergence entre le Parlement, selon les formations politiques, et les Français, selon leur sympathie partisane. Rejet massif à gauche de la réforme des retraites, adhésion molle à droite. Par contre, sur l'immigration, et c'est en ça que ça explique aussi cette coupure entre les représentants et les représentés, le clivage gauche-droite au sein de la population, tel que mesuré dans les enquêtes, ce ne sont que des enquêtes, mais ça donne un reflet, était beaucoup plus faible que par le passé. Des sympathisants de gauche étaient largement favorables à expulser des délinquants étrangers. Des sympathisants de droite étaient favorables à la régularisation de sans-papiers. Et c'est la même chose sur la fin de vie. Yves Tréhard parle de fractures possibles au sein des groupes politiques. Moi, ce qui me frappe sur ce sujet de la fin de vie, c'est que, quelle que soit la sympathie partisane, clairement, les Français souhaitent que ça bouge sur cette question. C'est peut-être le sujet actuel où il y a le plus grand fossé entre ce que veulent les Français massivement, légalisation du suicide assisté, peut-être exception d'euthanasie, et ce que propose le législateur.
Et puis il y a l'enjeu, on va parler des européennes qu'on va détailler dans la deuxième partie, mais vous nous le disiez tout à l'heure, Emmanuel Macron a lancé la campagne en quelque sorte hier. Est-ce que c'est pas trop tard quand on voit justement que le Rassemblement national s'y est mis il y a longtemps déjà?
Alors, au sein de la majorité, il y a deux thèses. Il y a une partie, effectivement, de la majorité qui dit que c'est beaucoup trop tard parce que le Rassemblement national, on l'a encore vu dans votre sujet tout à l'heure, martèle la date du 9 juin. Depuis la rentrée de septembre, en faisant une date importante, en disant que c'est l'occasion de dire non à Macron, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très, très martelé pour, dans le camp du Rassemblement national. Et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, l'électorat du Rassemblement national, qui traditionnellement n'est pas un électorat qui se déplace beaucoup pour ce genre d'élection, il va être motivé pour aller dire non à Macron. Et ils ont une tête de liste très incarnée.
Une tête de liste alors, vient d'apparaître dans le sondage, dans votre sondage, comme la personnalité politique préférée des Français.
Oui, c'est dans le top 50 des personnalités. C'est le plus...
Jordan Bardella.
Tout à fait, c'est la plus vieille enquête où on mêle des politiques, des non-politiques, des sportifs, etc. Qu'est-ce que raconte ce sondage depuis maintenant 20-30 ans?
Quelle question a été posée?
C'est une question de sympathie et une question d'influence. Est-ce que cette personnalité compte pour vous? Alors, au-delà du cas Goldman, qui est toujours en tête, mais ce n'est pas notre sujet de ce soir, cette enquête raconte la défiance à l'égard du personnel politique. La première enquête de février 88, François Mitterrand était quatrième, Chirac neuvième, il y avait Georges Marchais, il y avait Jean-Marie Le Pen, il y avait beaucoup de politiques. Il n'y en a maintenant quasiment plus. Et le fait que Jordan Bardella rentre directement en 30e position, il n'est bien sûr pas premier, mais c'est très significatif. Il est premier à droite, il est premier chez les sympathisants du Rassemblement national, avec d'autres baromètres, le baromètre Match, où pour la première fois, il devançait Marine Le Pen. Est-ce que c'est maintenant un atout pour Marine Le Pen? C'est la première fois qu'elle a un numéro 2 qui lui permet de prendre du champ, de ne pas prendre tous les ballons ou d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas aussi, si la date du 9 juin se confirme, si le RN, pour la troisième fois consécutive, gagne les élections européennes, peut-être une mise en orbite ou une irrésistible ascension, si je puis dire, de Jordan Bardella?
Alors, il y a ces élections européennes qui vont être effectivement décisives, qu'on peut interpréter comme des élections de mi-mandat, comme aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, midterms.
Exactement. C'est quand même un peu différent. C'est-à-dire que là, les gens se lâchent dans une élection européenne. C'est une élection qui, par exemple, est toujours très favorable, souvent assez favorable aux écologistes. Or, dans des autres élections, ils ne brillent pas beaucoup. Les municipales, il y a aussi un événement qui va être capital cette année 2024. C'est les Jeux Olympiques. Si les Jeux Olympiques sont un fiasco dans l'organisation, sans parler même de ce que certains appellent une catastrophe, un attentat, chose qu'il ne faut vraiment pas souhaiter. Mais même si ça se passe mal, mais pour Macron, c'est terminé. terminée. C'est-à-dire que ça restera comme une tâche indélébile sur ces deux mandats. En revanche, si ça se passe très bien, là, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne parce que ça peut redonner, et il a employé ce mot aussi, hein, de fierté. Ça peut redonner de la fierté aux Français et ça peut lui redonner des couleurs à lui aussi. Hein.
Oui, 2024 sera un millésime français, a-t-il aussi dit. Justement, ces élections européennes auront-elles des conséquences, et notamment sur les conflits entre la Russie et l'Ukraine, sur la situation au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. 2024 sera une année de choix décisif, a aussi répété hier le chef de l'État. Nicolas Bidard avec Benoît Thébault.
2024 sera aussi une année de choix décisifs. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs.
Une diplomatie européenne plus forte. L'un des mantras d'Emmanuel Macron martelé hier soir encore une fois. Un impératif pour le chef de l'État face au bouleversement du monde. D'abord, le Proche-Orient. Depuis l'attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, Israël bombarde sans relâche la bande de Gaza. Une situation humanitaire catastrophique. Des personnes pacifiques se trouvaient chez elles lorsqu'elles ont été frappées, des martyrs et de nombreuses familles. Tout le quartier a été visé. Nous avons appelé des ambulances, mais elles ne sont pas encore arrivées. Israël affiche son jusqu'au boutisme, laissant présager un conflit dans la durée.
Nous nous battrons jusqu'à la victoire. Nous n'arrêterons pas la guerre tant que nous n'aurons pas atteint tous ces objectifs, la destruction du Hamas et la libération de tous nos otages. Et après avoir détruit le Hamas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Gaza ne constitue pas une menace pour Israël.
De cette situation qui semble inextricable, émerge le début d'un embrasement du conflit dans la région, notamment en mer Rouge. Les Houthis, des rebelles du Yémen, y multiplient les actes de piraterie en soutien au Hamas, comme sur ces images. Ce qui a poussé les États-Unis à former une coalition d'une vingtaine de pays, dont la France fait partie. Un chaos qui détourne l'attention de la communauté internationale d'un autre conflit. Celui de la guerre en Ukraine. Il y a 3 jours, Moscou a lancé une de ses plus grandes attaques de drones et missiles depuis le début de la guerre. 39 personnes tuées dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kharkiv.
J'ai entendu une explosion. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu de la fumée s'échapper. Puis 2 minutes plus tard, un autre missile. Les troupes russes les lâchent toujours par paire.
Quelques heures plus tard, la ville de Belgorod en Russie est bombardée. 24 victimes. La Russie accuse l'Ukraine. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le sol russe. Dans ses vœux au peuple ukrainien, un Volodymyr Zelensky plutôt menaçant.
L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production nationale. Nos armes, nos équipements, notre artillerie, nos obus, nos salutations navales à l'ennemi et au moins 1 million de drones FPV ukrainiens. Tout cela, nous l'utiliserons généreusement, sur terre, dans le ciel et bien sûr en mer.
Pas de quoi masquer l'échec de la contre-offensive de Kiev, lancée il y a maintenant 6 mois. Les combats s'enlisent, les positions sur le front se figent, et dans les tranchées, la lassitude grandissante des soldats ukrainiens.
La vie paisible me manque. J'aimerais que la guerre se termine bientôt et que nous puissions rentrer chez nous, retrouver nos familles et notre travail, et oublier tout cela.
Vladimir Poutine, lui, se montre plus en confiance que jamais. Quand les vœux du nouvel an virent à l'exercice d'autosatisfaction.
Au cours de l'année écoulée, nous avons travaillé dur et accompli beaucoup. Nous pouvons être fiers de nos succès. Nous avons défendu fermement les intérêts nationaux. Nous ne reculerons jamais, car aucune force ne peut nous diviser.
D'autant que les forces ukrainiennes pourraient manquer à court terme, de l'aveu même de Kiev. L'Ukraine aura besoin de mobiliser près de 500 000 soldats supplémentaires pour faire face à l'effort de guerre.
Voter Le Pen et Bardella, c'est voter Poutine, point barre. C'est Stéphane Bojeta, qui est député Renaissance des Français de l'étranger, qui le dit. Est-ce que c'est une allusion à l'enquête qui est apparue notamment cette semaine sur le Washington Post,
Oui. Bah, la grande difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le Rassemblement national en fait un référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Lui polarise sur le thème voter Le Pen, c'est Poutine, et c'est abandonner l'Ukraine. Et le problème, c'est qu'il y a une part de vérité dans ça, mais que tout le monde y voit un calcul politique, parce que les précédentes élections ont été menées sur la base de cette polarisation avec Marine Le Pen, et qu'on se retrouve de nouveau dans ce schéma. Sauf que la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est quand même celle-là. C'est que cette enquête du Washington Post est très intéressante.
Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit?
Donc le Washington Post fait état de documents qu'ils ont pu consulter, qui montrent qu'il y a une stratégie russe, qui a identifié notamment la France comme un des maillons faibles dans lesquels on peut pousser pour faire parvenir au pouvoir des forces populistes qui affaibliront le soutien occidental à l'Ukraine. C'est en gros le résumé de cette stratégie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on le sait depuis longtemps que la Russie favorise, que ce soit en Italie, en France ou ailleurs, les forces qui peuvent affaiblir la cohésion européenne. Mais là, en l'occurrence, ça va être un véritable enjeu, parce que on voit bien que le soutien à l'Ukraine est menacé aux États-Unis, qu'il est en difficulté en Europe avec l'obstruction de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, et que s'il y avait un pays comme la France qui basculait dans le camp de ceux qui s'opposent à l'aide à l'Ukraine, ça serait la fin, en gros, de ce soutien, à l'Ukraine. Donc ça changerait la carte géopolitique de l'Europe et d'une grosse partie du monde. Et la toile de fond de tout ça, et je pense que ça va jouer un rôle dans la campagne électorale des européennes, c'est Donald Trump. C'est que l'ombre de Donald Trump, aujourd'hui, pèse sur le monde entier. Poutine joue la carte de l'attente de l'élection de Donald Trump pour gagner en Ukraine. Netanyahou joue la carte de l'attente de la victoire de Donald Trump pour se débarrasser de Joe Biden et des pressions américaines sur une solution politique à deux États. Et vous avez cette situation qui est soumise aujourd'hui à l'issue des élections américaines. Donc ce sont des facteurs qui compliquent énormément l'équation politique de ces européennes, et les électeurs vont être partagés entre l'idée de voter en fonction de choix de politique intérieure française ou de l'état du monde qui est chaotique, inquiétant, et dans lequel l'Europe reste une boussole à laquelle on peut s'accrocher malgré tout, quel que soit le contexte. Donc c'est extrêmement compliqué pour l'électeur, pour le citoyen.
Et Michel, par exemple, de Belgique, nous dit: pourquoi la France doit-elle se préparer pour des conflits qui ne la concernent pas et qui ne l'atteindront pas?
Oui, mais ça c'est... Alors, parce qu'il y a guerre et guerre. Bon, il y a la guerre physique entre l'Ukraine et la Russie, entre le Hamas et Israël, mais vous avez une autre forme de guerre, qui est une guerre qui emploie les moyens de la propagande, qui emploie les moyens de la déstabilisation. Et c'est cette guerre-là qu'il mène, Poutine. C'est une guerre qu'il mène contre l'Occident en général. Il prétend, vous savez, on parle maintenant, mais on ne va pas utiliser tous ces mots, mais on parle du Sud global. Mais il y a cette guerre qui est menée par tous les pays qui ne veulent plus de l'ordre occidental, qui estiment que cet ordre occidental imposé par les États-Unis, l'Europe, il faut le détruire. Et Poutine fait partie, est un chef de guerre de ce point de vue. Et il se sert de toutes les élections pour essayer effectivement déstabiliser. Et donc les élections européennes pourraient être très exposées à une forme de propagande poutinienne qui soit assez redoutable. Moi, je pense que le président Macron redoute beaucoup ça, beaucoup, beaucoup, surtout que il a des alliés, Poutine, effectivement, sur le continent européen. Donc ça, c'est très grave.
Oui, c'est assez étonnant, cette phrase de Michel, parce que votre téléspectateur, c'est que les Français pensent maintenant complètement le contraire. Pendant très très longtemps, une des raisons pour lesquelles personne ne s'intéressait à la politique extérieure, à part des catégories particulières, des personnes âgées, des personnes extrêmement diplômées, c'est que ça ne nous concernait pas. Maintenant, de plus en plus, les Français ont compris que ce qui peut se passer au bout du monde, ce qui peut se passer à Kiev ou en Russie, ce qui se passe au Proche-Orient. Hein, sondage IFOP pour le CRIF, 82% des Français, que le Figaro avait, je crois, publié, 82% des Français craignaient des répercussions intérieures et rapides du conflit entre Israël et le Hamas. C'est ça qui a changé. La politique extérieure intéresse de plus en plus les Français parce qu'elle a des conséquences concrètes sur nos vies.
La crise, si je vous suis bien,
c'est la crise de l'énergie, par exemple, l'hiver dernier, bah, on disait que c'était lié l'inflation, à tort ou à raison, c'était lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc justement, une posture isolationniste est vraiment très marginale en France.
Donc, si je vous suis bien, les Français vont voter sur les enjeux aux européennes, pas sur les enjeux de politique nationale. Alors, pas forcément, s'ils
oui et non.
sont plus concernés
non.
par...
Non, parce qu'on sait très bien qu'il y a toujours une dimension de vote sanction aux élections européennes pour un pouvoir sortant. Emmanuel Macron l'avait évité en 2019 parce qu'il y avait cette France du oui qui a voté massivement pour le camp Macron. Il y avait aussi, même si c'est Le Pen qui avait gagné les élections, mais ce qui me frappe quand même, c'est à quel point maintenant la question européenne intéresse également les Français, parce qu'ils ont vu, lors du Covid, ils ont vu lors de la guerre en Ukraine, une Europe beaucoup plus active, une Europe beaucoup plus incarnée. Une donnée de mes confrères et amis de Kantar, de l'Eurobaromètre, pour la première fois depuis, je crois, 20 ans ou 25 ans, en France, même si on est très mal placé par rapport aux autres pays, la Commission européenne avait plus d'opinions positives ou favorables que d'opinions négatives. Là, c'est une vraie rupture.
C'est un exploit.
C'est même un exploit par rapport à il y a quelques années. Oui. Ce n'est pas rien, ça non plus.
Oui. Je voudrais qu'on revoie le sondage qu'on a aperçu tout à l'heure sur les intentions de vote aux européennes, avec le Rassemblement national qui est en tête avec 27%, devant Renaissance 19%, le PS 10%. Nathalie Mauret, vous pensez que le RN, dans l'état actuel des choses, va gagner les européennes?
Alors, évidemment, je ne peux pas m'avancer là-dessus.
Vous n'avez pas de quand même. Cristal, j'imagine. Bien,
mais... Honnêtement, il faudrait demander à Frédéric, mais avec un tel écart à 6 mois du scrutin, ce serait très étonnant quand même que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Moi, j'ai le sentiment, enfin, c'est pas que j'ai le sentiment, je sais que dans la majorité, ils ont déjà intégré que le RN serait en tête. Là, ils sont en train de penser à l'écart. Juste pour se rappeler, en 2019, il y avait 200 000 voix d'écart simplement entre Renaissance, qui était juste en seconde position derrière le Rassemblement national, qui était à 23 ou 24, etc. Donc, c'était très, très peu. Là, si jamais le Rassemblement national faisait le même score que la dernière fois, c'est-à-dire 23, ce serait un échec terrible. Donc vous imaginez, en 5 ans, l'emprise du Rassemblement national sur l'électorat européen, qui n'est pas son premier électorat, c'est absolument considérable. Je ne vois pas comment, pour répondre très concrètement à votre question, je ne vois pas comment le Rassemblement national ne peut pas, compte tenu de tout ce qu'on a dit ici, être largement en tête au mois de juin prochain.
En faisant référence donc à ce 9 juin en permanence,
tout le temps.
Et dans une posture qu'on va retrouver dans le discours de Marine Le Pen hier lors de ce vous écoutez.
Voilà le vœu que je formule pour cette année 2024. Refaire de la France une terre de prospérité, de sécurité, d'ambition et de grandeur. Une nation où il fera à nouveau bon vivre. Malgré le mépris et l'aveuglement des gouvernants qui se sont succédés depuis 40 ans, nous avons en nous des gisements inépuisables de créativité et d'intelligence qui seront demain les instruments de notre puissance.
Et ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, que ce sont des élections pour le Rassemblement national de mi-terme, de mi-mandat.
Hier soir, Marine Le Pen a fait un tweet en réaction donc à l'allocution du président de la République, dans lequel, sauf erreur de ma part, elle mentionne le 9 juin. Donc faites attention, c'est assez intéressant à observer, il n'y a pas une intervention d'un élu des Rassemblements nationaux dans les médias qui ne mentionne pas cette date-là. C'est quand même la preuve, si besoin en était, que cette élection-là est pour eux absolument fondamentale.
Et puis les différents leaders qui se sont exprimés depuis hier 20h, y compris Marine Le Pen, sur l'allocution faite présidentielle, ont mis en avant les deux thématiques que le président Macron a seulement effleurées. L'insécurité, hein. Il a eu des pudeurs de gazelle, si je puis dire, sur les émeutes urbaines qui ont beaucoup marqué les Français en parlant d'éléments de violence. Et bien sûr, l'inflation et le pouvoir d'achat qui reste derrière la santé, la première préoccupation des Français. Emmanuel Macron a seulement parlé de l'inflation qui a continué à sévir en France. Là aussi, le procès en termes de déconnexion, c'est ça. Deux sujets qui font le bon vivre français, un pouvoir d'achat élevé, une sécurité, une tranquillité n'ont pas été évoqués par le président.
Oui. Alors que les maires, et on le dit souvent, les élus locaux sont en première ligne aujourd'hui, disent leur lassitude parfois et agissent aussi. Un exemple concret à Cernay, le maire de la ville organise chaque mois des réunions pluridisciplinaires afin de repérer, agir pour stopper au plus vite d'éventuelles violences. C'est un reportage de Constance Meyer avec Adrien Guillotot et Arnaud Fora.
Vous pouvez vous installer où vous voulez, il y a du café, il y a du thé.
À la mairie de Cernay, c'est désormais une réunion d'habitués.
Et bonjour Christelle, vous allez bien ?
Oui, ça va.
Jean-Marc, ça va bien ?
Ça va bien, merci.
Depuis 2015, chaque mois, l'adjoint à la sécurité organise un conseil communal bien particulier.
La gendarmerie, l'éducation nationale, les services sociaux, la police municipale, pôle médiation sécurité, etc. On fait un 360 degrés sur la sécurité, sur la délinquance des mineurs, sur la déscolarisation, sur la détection du phénomène de radicalisation. Toute la sécurité à 360 degrés.
Un tour de table pour faire remonter les problèmes de terrain, notamment à l'école, avec l'oreille attentive de la procureure de la République de Mulhouse.
On a eu une arme factice qui a été introduite dans l'établissement, donc il faut savoir que c'est quand même un incident grave. Alors, voilà. On a eu un signe nazi la semaine dernière en plein cours d'histoire. Et puis il y a une troisième situation avec des menaces de viol vis-à-vis d'une élève de l'établissement. Finalement, notre palette, nous, de sanctions, ça va être une exclusion d'établissement temporaire. Oui. Qui pour moi n'a pas de sens. L'élève va rester à la maison et finalement il ne va rien se passer.
Il n'y a rien de pédagogique voilà, en tout cas. Il ne faut plus laisser les chefs d'établissement démunis par rapport à ces situations très très compliquées et dont on sait que ça va mal se terminer. C'est la déscolarisation dans un premier temps, la marginalisation et la violence de rue et tout le reste.
Dans certains cas, la procureure peut enclencher une procédure auprès d'un tribunal de proximité, apporter une réponse à ces violences du quotidien, à l'heure où la police n'a pas toujours les moyens de les traiter.
Pour moi, c'est incontournable. Je préfère quelquefois laisser tomber quelque chose d'autre pour pouvoir aller à la rencontre des élus, parce que je sais que c'est là, sur le terrain, que se crée ce sentiment d'insécurité.
À Cernay, lorsque la justice condamne des jeunes à des travaux d'intérêt général, ils sont parfois envoyés au club de boxe de la ville, sous les instructions d'Abdelak.
Voilà, mobile, très mobile. Relâchez, allez.
Coach et médiateur social, en plus de ses élèves, il encadre chaque année une quinzaine de jeunes condamnés.
Quand on organise un gala, ben ils sont là pour nous aider à monter le ring, à préparer les chaises, les tables. Voilà, on essaie de leur donner une deuxième chance. Il y en a beaucoup qui ont réussi.
Parmi les élèves ce soir-là, aucun n'est concerné. Mais la boxe, c'est justement ce qui a empêché Moussa de déraper.
J'ai commencé la boxe à l'âge de 15 ans. C'était mes professeurs au collège qui m'ont conseillé de faire du sport parce que j'étais devenu un jeune assez perturbateur, on va dire. J'aimais bien la bagarre. Quand j'ai commencé la boxe, j'ai tout de suite commencé les compétitions. Donc tout de suite, ça m'a créé un cadre, j'avais des gens autour de moi. Donc j'étais obligé de, déjà pour moi et aussi pour les gens qui me suivaient, je voulais pas les décevoir. Donc j'étais à fond dans mon truc, quoi. Et après, quand en grandissant, tu te rends compte, tu te dis, j'ai eu de la chance en fait. Heureusement que j'ai eu ce sport-là parce que ça m'a fait éviter des choses.
La méthode Cernay a déjà inspiré d'autres communes qui ont répliqué ce modèle de prévention de la délinquance.
Une question de téléspectateurs, ne serait-ce pas les maires qu'il faudrait réarmer, Nathalie Moret ?
Ah mais moi, je suis convaincue que les maires sont déjà armés, enfin, au sens où, effectivement, il faut les aider. Mais les maires sont des capteurs incroyables de tout ce qui se passe dans la vie de la société. Ce qui se passe à Cernay, là, est absolument remarquable parce qu'on voit que c'est institutionnalisé, qu'il y a des réunions avec les procureurs, les travailleurs sociaux, etc., de façon institutionnalisée. Mais moi, je connais énormément de maires qui font ça, ou ce genre d'équivalent, sans être institutionnalisés. C'est-à-dire qu'ils sont régulièrement à la rencontre des associations, qui vont régulièrement à la rencontre du procureur de la République ou des travailleurs sociaux de façon totalement informelle. Alors, ce qui est effectivement très, très bien à Cernay, c'est que justement ça devient quelque chose, une façon de travailler ensemble. Mais les maires sont des capteurs incroyables. Ils sont vraiment au contact de la population et ils sentent les choses venir. Donc, désarmer, alors, est-ce qu'il faut les réarmer ? Il ne faut pas les armer d'informations parce qu'ils les ont. Moi, à mon avis, il faut plus être en contact avec eux parce que c'est souvent du terrain que vient la solution.
On dit toujours, souvent qu'ils sont à portée de baf. Est-ce qu'ils restent malgré tout les élus préférés des Français ?
Ah, clairement, oui. C'est vraiment l'élu de confiance, le maire, vis-à-vis de l'opinion publique, parce que c'est le seul élu qui arrive, avec peut-être maintenant un peu les présidents de région, à matérialiser la promesse du politique, le contrat entre représentants et représentés, qui est changer la vie, peser sur le cours des choses. Emmanuel Macron, lors de ses vœux, n'a cessé de mettre à distance la fatalité, l'impuissance. Jamais, dans nos enquêtes, les Français disent de leur maire qu'il ne fait rien. L'inaction, ce n'est pas quelque chose qui s'applique au maire. Parfois, on ne voit pas le cap, parfois, on critique l'incarnation, mais le maire change la vie. Maintenant, alors Nathalie l'a très, très bien dit, il y a un niveau d'exigence à leur égard absolument terrible. C'est la première raison dans une enquête IFOP pour le groupe LR du Sénat en 2019, avant les dernières élections municipales, qui rendait la vie et la fonction très difficile pour les maires. Et on voit très bien qu'il y a un tel niveau d'exigence qu'une sorte de défiance commence à, très doucement, mezzo voce, à contaminer la sphère locale. Les Français, qui se sentent souvent abandonnés, vont vers leur maire. Sur des questions de santé, sur des questions d'accès aux droits, sur des questions même judiciaires, le maire est en première ligne. Et une enquête récente de l'IFOP donnait un chiffre absolument terrible. Alors, ça ne concerne pas tous les maires, on est loin de 2026. Une majorité de maires qui n'envisageaient pas un nouveau mandat en 2026, alors que on sait très bien que c'est l'élu qui subit le moins la sanction. Et on a toute une série de villes où il y a des maires qui sont là depuis 3, 4, 5, voire 6 mandats, parce que le maire a ce crédit de confiance.
Sans parler de ceux qui abandonnent en cours de mandat.
Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas... dans les petites villes surtout.
Ouais. Quel est le rapport d'Emmanuel Macron avec les maires, justement ?
Il n'est pas très bon, parce que, vous savez, au début, en 2017, il avait dit on n'a pas besoin de pouvoir intermédiaire. Il avait remis en question tout ça. Je pensais tout à fait... omnipotent, omniprésent, un petit peu comme Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine d'années. Et il ne s'est pas rendu d'ailleurs cette année encore au Congrès des maires. Il a des rapports compliqués. Il n'est pas élu lui-même, il n'a jamais été élu local.
Il n'a pas d'ancrage local.
Son parti n'a jamais réussi à s'implanter localement. Pour lui, c'est un corps étranger, si vous me permettez l'expression. C'est vraiment très, très difficile pour lui d'appréhender ce qu'est la vie d'un maire, alors qu'un maire... Et puis alors, il y a une chose qui est considérable, c'est que le conflit... je dirais que la méfiance qui s'est instaurée entre les maires, les élus locaux et le président de la République vient aussi des réformes qu'il a conduites, notamment de la fiscalité locale. Puisque avec la suppression de la taxe d'habitation, il a amputé d'une partie de son pouvoir les maires. Et ils ont... Pour certains d'entre eux, enfin ils le disent, ils n'ont pas eu le substitut, ils n'ont pas eu la contrepartie, si vous voulez, de ce qu'ils ont perdu avec la taxe d'habitation. Donc ça a quand même aussi beaucoup tendu les relations entre les deux.
Est-ce que malgré tout, depuis les émeutes de juin dernier, les maires, vous disiez qu'ils ont besoin davantage d'aide et d'être accompagnés, est-ce qu'ils le sont un peu plus ?
Un peu plus, oui. Il y a eu une concrétisation justement de ce soutien vis-à-vis des maires lors du dernier congrès des maires, alors avec des solutions très techniques qui avaient été négociées très en amont par l'Association des maires de France avec les ministres concernés, mais effectivement, il y a des tas de petites choses techniques que les maires demandaient depuis longtemps qui leur ont été accordées. Alors, je n'entre pas dans les détails parce que ce sont vraiment des choses techniques assez loin du grand public, mais ça signe cette attention de l'exécutif un petit peu plus aiguë maintenant vis-à-vis des maires.
Mais notamment, je crois, sans rentrer dans les détails, mais aussi plus de sanctions pour...
Alors ça, c'est la plus emblématique, que le fait que quand les maires ou les élus municipaux sont attaqués et se sont agressés, effectivement, les sanctions pour les auteurs sont plus fortes.
On va passer à vos questions SMS.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.